Europe 1, 23h, 1h, la libre antenne. Sabine Marin.
Bienvenue sur votre libre antenne qui commence un petit peu plus tard pour cause de football. Bienvenue à vous donc dans ce studio tout bleu où à cette heure-ci maintenant on baisse la lumière dans une ambiance propice aux confidences. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin pour partager des moments de vie, des questionnements, des doutes, quelquefois aussi de belles expériences. 1h30 pour entrer dans l'intimité de ceux qui viennent chercher ici une écoute bienveillante. Si vous souhaitez prendre la parole, c'est facile. Vous faites le 39-21. Estelle est au standard, elle vous accueillera et vous guidera ensuite jusqu'à moi avec sa gentillesse habituelle. Et si vous voulez participer, interagir par SMS, donner votre point de vue, un conseil, un mot gentil, vous faites le 7-39-21 en commençant bien par le mot nuit en majuscule. Enfin, si vous préférez nous envoyer un mail, c'est à l'adresse suivante, libreantenne en un seul mot, libreantenne@europe1.fr. Tout le monde est prêt pour vous ce soir encore, c'est Fabrice Foujrousse qui réalise cette émission.
23h, 1h. La libre antenne d'Europe 1, Sabine Marin.
Alors pas de question du jour, là ce soir on va gagner du temps, on accueille directement Marion. Bonsoir Marion.
Bonsoir Sabine.
Bienvenue à vous.
Merci, c'est gentil. Alors moi je suis Lyon.
Vous êtes
pour
Lyon.
Pour la question d'hier.
Ah d'accord, j'ai failli vous dire quel drôle de prénom. Vous êtes, eh bien, bienvenue cher Lyon.
Tout ça, c'est pour dire que je viens juste d'avoir 60 ans. C'est, bon, enfin bon, je ris, j'essaye de rire, mais en fait, ça va pas du tout.
Je vous écoute.
C'est une très très vieille histoire depuis que je suis jeune. Mm-hmm. J'ai eu tout un tas d'aléas dans ma vie. J'étais une citadine et en 2012, j'ai émigré toute seule dans le Cantal.
Pour quelle raison ? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre esprit ?
Alors, le rural a toujours été, enfin l'Auvergne a toujours été mon rêve. Alors, ce qui s'est passé dans mon esprit, c'est que j'habitais à Montpellier, je travaillais, j'ai appelé d'ailleurs Olivier à ce sujet-là, j'ai témoigné à ce sujet-là. Mm-hmm. Mon fils a subi des harcèlements scolaires, de fil en aiguille, j'en ai fait une dépression. Il a été placé de façon dure, là, comme on entend beaucoup de jeunes parents témoigner maintenant. Finalement, en fait, je l'ai perdu. On a fini par me diagnostiquer une fibromyalgie. Très forte. J'avais des problèmes de vision aussi, maculaire. Et donc, après différentes possibilités administratives de l'arrêt maladie jusqu'au congé longue durée. Etc. Bref, j'en suis arrivée à être pensionnée en invalidité. Mmh. Il se trouve que par hasard, pas vraiment par hasard, je suis venue ici dans le Cantal et comme j'étais propriétaire sur Montpellier, j'ai vu une maison, ça a été le coup de foudre, j'ai émigré.
D'accord. Et ça, vous me dites, c'était il y a combien de temps ?
Alors ça, c'était en 2012. Mmh. Donc, je me suis bien adaptée. J'adore ce coin. Je m'étais fait un ami paysan qui m'a coaché, voilà. On peut dire.
Intronisé,
Comment?
intronisé dans la région avec
Oh.
les.
Oui, parce que en fait, c'est très 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 dur la vie dans le rural. Bon, moi je m'y suis habituée. Et puis, alors, un détail qui a une grande importance, c'est que en 1996, j'ai rencontré une personne sur Montpellier. Nous avons cheminé ensemble. On a essayé de vivre ensemble. Je n'ai toujours eu que des. Enfin, bref, ça n'a pas marché. Et en même temps, on est resté toujours. On habitait la même ville. Enfin, bon, voilà. Et donc, quand je suis partie, je suis bien partie pour tout quitter. Or, il m'a suivi. Quand la retraite est arrivée, pour lui, il m'a suivi. Et j'ai cru, encore une fois, de façon vraiment naïve, que enfin, grâce à la retraite et à la nouveauté d'une nouvelle région, nous allions enfin faire une vie ensemble.
Un peu comme un nouveau départ, quoi.
Voilà, un peu comme un nouveau départ dans ma maison. Ça a été la catastrophe. La catastrophe supplémentaire. Il avait acheté un tout petit bien à 100 mètres de chez moi. Mais vraiment très très petit. Donc il était convenu qu'ils vivent chez moi et que tout ce qui pouvait me contrarier, finalement, il utilisait ce petit bien. Donc ça a été la catastrophe donc il est parti vivre dans cette petite maison et puis un jour il est parti, enfin bon, il est reparti voir sa famille, enfin bon, voilà. Et pendant ce temps-là, enfin, il me trouvait vraiment très très désagréable. Et donc, quand il est parti, eh ben, on m'a diagnostiqué une leucémie chronique. Pas la leucémie aiguë, la chronique.
En plus de la fibromyalgie
En plus de la
et des
fibromyalgie.
problèmes aux yeux.
En plus de la fibromyalgie et j'ai une très très grosse lacune sur l'œil gauche. J'ai les mêmes symptômes que comment on appelle la
DMLA?
voilà, c'est ça. C'est pas ça, mais ça fait les mêmes symptômes avec une lacune et des déformations autour. Mais depuis l'âge de 6 ans, j'ai un problème de vision, quoi, qui s'est aggravé petit à petit. Donc voilà. Figurez-vous que je l'ai informé, il n'a pas réagi.
C'est agréable.
Je l'ai informé par mail. Il n'a pas réagi. Et donc j'ai eu 6 mois de traitement immunothérapie, chimiothérapie.
Les deux?
Oui, les deux pour la leucémie chronique, il faut les deux. C'est une leucémie lymphoïde chronique. Il y a des tas de sortes de leucémies, je ne le savais pas du tout.
Et quelle était la gravité de celle-là?
Alors, il y a 3 stades ABC, et j'étais en haut du stade B, et en regardant donc mes analyses, mes bilans sanguins, des vieux bilans sanguins, je l'avais depuis 2 ans. Le médecin généraliste s'en était pas aperçu. Alors, c'était très visible, et donc pendant ces 2 ans, ça a évolué.
C'est ça, c'est ce que j'allais vous dire. Si ça avait été pris plus tôt, ça aurait peut-être été.
Ah, ben j'aurais moins souffert du traitement, parce que là, comme j'étais considérée en bonne santé par ailleurs, c'est-à-dire pas de problème de rein, de cardiovasculaire et je crois que c'est le diabète. Voilà, et ben j'ai eu le cocktail le plus fort.
Et vous avez eu des effets secondaires violents?
Oui, enfin, oui, enfin, j'ai pas eu de perte de cheveux, ça c'était, on me l'avait dit. Oui, j'ai eu des effets secondaires difficiles, mais j'ai eu, dans mon malheur, de la chance parce que j'ai été extrêmement bien suivie par donc un autre généraliste et par une infirmière libérale. Parce que ce généraliste avait mis cette infirmière tous les jours du fait que c'était une polypathologie. Parce que bon, je subissais l'immunothérapie en hôpital 2 jours, une fois par mois. Ça a été, je crois, ça le plus difficile, l'immunothérapie. J'ai fait des réactions allergiques. En sortie de ce traitement, donc de février à juillet, au moment des fêtes de fin d'année, je me sens pas bien et voilà, j'ai déclaré une maladie de Lyme primo-secondaire.
Et une couche de plus.
Une couche de plus, comme m'a dit l'hématologue, on n'avait vraiment pas besoin de ça.
Marion, vous ne bougez pas, on reprend notre conversation dans un instant.
Je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie. Marion.
Oui.
Oui, la maladie de Lyme, c'est celle qui s'attrape avec des tiques, hein.
Voilà, c'est ça. Bon, c'est infesté de tiques. En fait, le généraliste que j'avais à ce moment-là est vraiment issu du monde paysan, du milieu. Et bon, lui, il l'a vu tout de
Oui,
suite
c'est
que
ça.
c'était ça.
J'allais vous dire, c'est tellement, tellement long quelquefois. Il y a des gens qui galèrent pendant des mois, des années avant qu'on trouve ce qui se passe.
Eh bien,
Ah, avant, ouais.
je vais vous dire, lui, il a tout de suite vu que c'était ça.
Ouais.
Donc, il a demandé tout de suite un bilan sérologique. Eh bien, figurez-vous que c'est revenu négatif.
C'est pas vrai. Mais alors, c'était quoi?
Eh bien, il était perplexe. Alors, il a pensé que je faisais une allergie à un des médicaments que je prends, que j'ai toujours, qui est très puissant, justement, pour me protéger de la pneumocytose.
Et qui aurait donné des symptômes équivalents
Eh ben, il était un peu,
à... Ouais.
voilà. Mais bon, comme c'était les fêtes de fin d'année, l'hématologue était pas là. Enfin bref, bon, j'ai réussi à être hospitalisée le 7 janvier. J'ai patienté pendant 24 heures sans que ça bouge vraiment. L'hématologue a été passée, elle voyait pas trop grand-chose, mais bon, chacun sa spécialité, hein. Mais quand un dermatologue est arrivé, alors là, je peux vous dire que ça a été le branle-bas de combat, hein.
Qu'est-ce qu'il a vu, lui?
Il a tout de suite vu une maladie de Lyme primo-secondaire où j'étais complètement envahie, quoi. Donc il y a trois stades dans la maladie de Lyme, donc du coup je l'ai appris. Et moi, je n'avais plus, j'en ai toujours pas assez, mais là c'était bien pire, je n'avais plus aucune défense immunitaire
Ah oui.
par le traitement de l'immunothérapie. Donc voilà, donc j'ai eu le double du traitement. Non, ce généraliste avait vu dès le début que c'était une maladie de Lyme. Alors pourquoi est-ce que c'est revenu négatif? Eh ben, ça a fait l'objet d'une recherche, probablement que c'est l'immunothérapie qui a masqué le résultat. Qui a
D'accord.
été, je vais vous dire, la dermatologue, elle a envoyé, elle m'a fait des 3 biopsies, elle a envoyé ça dans plusieurs laboratoires, dont celui de Strasbourg. Et celui de Strasbourg a bien déterminé même l'espèce de tique, enfin bon.
Alors comment vous arrivez à avancer avec tout ça?
Eh ben voilà, eh ben attendez, j'ai pas. Après j'ai fait une après cette maladie de Lyme, j'ai enchaîné sur la grippe, puis j'ai des coliques néphrétiques, et là le médecin il m'a dit, bah, t'es dans l'état de quelqu'un qui vient de faire ses 8 mois d'hôpital. Bon, j'ai réussi à me La leucémie, j'ai bien réagi au traitement, donc elle est bien contenue.
D'accord.
Voilà. Alors, comme j'ai beaucoup de chance, sur ce, ma mère décède et elle me laisse un gros, j'ai très peu de revenus, un gros héritage. Ah ben alors, donc je fais faire des travaux de restauration de ma maison.
Oui.
Malfaçon, dégâts des eaux. Donc, ça fait depuis décembre 2019 que je me bats contre une assurance adverse. Et pendant ce temps-là, donc, le monsieur toxique, là, il m'a jamais aidé.
Parce qu'il est revenu, il est revenu dans l'entourage, dans les parages ?
Eh bien, en fait, il avait... Alors, quand il était parti, là, c'était pour aller voir sa famille, mais comme il a acheté ce petit bien à 100 mètres, oui, il est revenu. La seule chose qu'il a fait, c'est... les deux seules choses qu'il a fait, ça a été de garder ma chienne et de faire des courses. Parce que ici, pour faire des courses, là, ici, c'est à 35 kilomètres. Et je pouvais même pas conduire.
Il a quand même au moins fait ça.
Oui, il a fait ça. Mais c'était horrible parce qu'il venait tous les jours m'amener la chienne. Il s'asseyait et il me disait rien.
Mais qu'est-ce que vous auriez aimé de cette relation? Qu'est-ce que vous auriez espéré à ce moment-là de lui?
Une simple solidarité. Peut-être... un peu qu'il exprime un peu de compassion.
Ouais. Au moins par
et là,
au
ça
moins
a été le
mots.
Silence.
Ouais, c'est ça, au moins par des mots, quoi.
Voilà, par des mots. Mais vous savez, pendant ce traitement, moi, j'ai pris l'initiative de consulter un psychologue. En fait, d'ailleurs, je consultais avant parce que j'étais tellement mal que je croyais que... c'était moi, quoi. Et puis, en fait, j'avais une leucémie.
Mmh.
J'avais vraiment des raisons d'être mal. Et donc, la personne est... Alors, maintenant, je suis aussi prise en charge par rapport à la fibromyalgie au service des douleurs chroniques de l'hôpital. Mais depuis très peu, hein, très peu de temps. C'est vraiment... Parce qu'en plus, le traitement de la leucémie, ça accentue les douleurs.
Mais aujourd'hui, le traitement de la leucémie, vous l'avez stoppé, si j'ai bien compris.
Il reste de très importants médicaments, probablement pendant des années, un antiparasitaire.
Ah, d'accord, malgré le fait d'avoir... d'être en,
oui,
en...
oui, 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 parce que, en fait, avant les traitements, les hématologues vaccinent contre toutes les maladies pulmonaires qui puissent exister. Parce que on sait que avec ce traitement,
ça va baisser vos défenses immunitaires.
Ces pneumocytoses automatiques, ce qui redemande des hospitalisations, c'est très dur. Donc là, je suis même au risque Covid grave.
Ça, on bouche un trou, mais on en ouvre un autre à chaque fois, quoi.
Voilà. Exactement. Et moi, comme une andouille, au lieu de m'éloigner, enfin, je suis tellement dans un problème matériel que j'arrive pas à m'éloigner de cette personne. Et il a réussi à me convaincre. Il a un petit terrain à faire du jardinage là tout l'été dans son terrain. Et donc je vous ai appelé hier soir. On est dimanche, hein.
Oui.
Parce que hier samedi, j'étais dans un tel état, j'ai commencé à boire pour oublier, pour dormir. Je vous
alors
dis,
ça,
on mélange.
Avec les médicaments, c'est pas une bonne idée. Hein.
Voilà, mais oui, mais je le sais, parce que je le sais. Non, c'est pas du tout une bonne idée. Je vais vous dire, comme j'en ai pas chez moi de la boisson, j'ai été chez la voisine d'en face. Je lui ai dit, t'as pas une bouteille de salaire à m'avancer? Oui, elle me l'a tendue, puis voilà. Bon, voilà. Et donc, j'ai fait ça plusieurs fois. Et là, hier, je me suis dit, c'est pas possible, il faut que je fasse quelque chose. Alors, j'ai appelé des voisins. Enfin, j'en ai appelé un, puis un autre m'a appelé par hasard à ce moment-là. Ils m'ont ramassé à la petite cuillère.
Ah oui.
Et l'un d'eux va essayer de m'aider dans les démarches par rapport à l'assurance. Parce que il faut faire maintenant d'énormes travaux chez moi, au point que il faut que j'emballe tout. Alors voilà, il faut que j'emballe toutes mes affaires, que je serre tout. Une société de nettoyage va tout bâcher pour essayer de tout préserver le mieux possible. Enfin bon, et il faut même que je sois relogée pendant ce temps-là.
Mais est-ce que financièrement ça va grâce à l'héritage que vous avez eu? Est-ce qu'au moins vous êtes tranquille de ce côté-là?
Oui. Moi, cet héritage, je l'ai complètement investi dans les travaux. Donc, il y a quelque chose. J'ai refait faire. C'est une maison ancienne en pierre qui n'avait jamais été crépie. Donc, je l'ai fait crépir et j'avais un problème. Ici, on se chauffe beaucoup au chauffage bois bûche.
Mmh.
Donc on a des poêles et ma cheminée, il y avait des infiltrations d'eau. Et j'ai donc refait faire ma cheminée et ben, à la place des infiltrations d'eau, j'ai carrément eu un dégât des eaux.
Oui, il y a beaucoup de choses à refaire, mais ce que j'essaie de voir là dans tout ça, c'est qu'il faut séparer les problèmes, les mettre
oui.
Sinon mais c'est un amalgame et vous êtes noyé en dessous.
C'est ce que m'a dit mon voisin hier.
Prendre les choses une par une.
Oui, mais je ne sais plus comment faire justement pour les prendre une par une.
Bah déjà, j'entends moi que d'abord que vous êtes une sacrée battante parce que vous êtes encore là, debout et capable de parler de tout ça même avec un certain détachement, je trouve, un détachement probablement constructif.
Mais parce que j'ai beaucoup parlé avec des psychologues, donc
oui.
Ils ont débroussaillé le terrain. Il y en a un qui m'a beaucoup aidée. Même pendant le confinement. D'ailleurs, ça a été beaucoup dit, ça. J'ai eu une relation avec un psychologue par téléphone.
Mmh.
Puis, une fois le confinement terminé, plus personne.
Pour quelle raison? Parce qu'il a repris ses consultes en cabinet?
Oui. Et là, ça devenait payant. J'avais même aussi la psychologue de la Fédération du cancer. Heureusement que je suis arrivée au service des douleurs chroniques parce que là, un médecin m'a écouté pendant une heure et demie et c'est vrai qu'à un moment donné, il a dit il y a quand même peu de gens qui ont une vie aussi difficile que la vôtre. Je lui ai demandé de répéter la phrase.
Alors,
je lui ai dit,
ouais. Moi, j'aimerais la mettre en version positive, la phrase. Je dirais qu'il y a sans doute peu de gens qui ont réussi à surmonter autant d'épreuves que vous.
Je pense qu'il l'a dit dans ce sens-là.
Non, je préfère.
Oui. Il l'a dit dans ce sens-là. Et et il m'a plutôt... Oui, mais bon, et par rapport à la personne toxique... il m'a bien mis les choses... les points sur les i. Hein.
Mmh.
J'ai parlé. D'abord, il m'a posé des questions que jamais personne ne m'avait posées.
Du style
Par exemple, sur les relations sexuelles, des choses comme ça. Jamais personne ne m'avait posé de questions. À ce niveau-là.
Mmh. Et qu'est-ce que vous aviez à en dire alors?
Ce que j'avais à en dire, c'est que avec les différentes personnes que j'ai rencontrées, ça me plaisait pas quoi. Figurez-vous que j'ai une douleur. C'est peut-être la fibromyalgie, j'en sais rien. Mais pour lui, des relations que j'ai acceptées pour faire plaisir. Pour lui, c'était presque quasiment du viol.
En tout cas, c'est une agression.
C'est une agression, oui. Mmh. Et moi, vous savez, par rapport à ce mouvement MeToo, tout ça, je me disais, mais moi, j'ai jamais vécu ça. Et puis, en fin de compte, pas autant peut-être que certaines personnes là qui ont des aventures.
Oui, bien sûr, mais vous n'aviez pas
très, très
réalisé que
Non.
Avoir des relations sexuelles quand on souffre et quand on n'en a ni envie, ni surtout la capacité physique, parce que notre corps est en souffrance, c'est une agression, évidemment.
Oui, c'est une agression. Enfin, c'est maintenant que je le sais. Seulement maintenant. Seulement moi, j'ai toujours entendu que... Vous savez, les phrases du genre, attendez, comment c'était là ? Ah, le mot m'échappe. Oh, mais t'es frigide. Ouais, des choses comme ça,
oui,
quoi.
C'est d'autres fautes, en plus, oui. Oui.
Ah, ben bien sûr que c'était de ma faute.
C'est tellement plus facile de culpabiliser tout de suite la femme.
Voilà, alors, si vous voulez, dans mon histoire, même au niveau de la culpabilisation, mais j'ai culpabilisé pour plein de choses, hein, pour mon fils, pour tout ça. Je sais maintenant que donc mon corps a emmagasiné tout ça petit à petit. C'est que à chaque fois que un symptôme n'a pas été pris en compte, ben il y en a eu un autre plus grave.
Oui.
C'est bien ça.
Oui. Hein? C'est un petit peu comme si votre corps vous disait à chaque fois, prends soin de moi, fais attention à moi.
Voilà. Et ben il a fallu que j'arrive à cette leucémie pour arriver à dire à quelqu'un qui m'ennuie, mais tu m'ennuies, point. Sinon, moi, jamais par éducation, je n'osais...
Exprimer ça, oui.
Non. Parce que, mais mon père, enfin, surtout mon père était... comment dire, m'a vraiment inculqué ce genre de... Enfin, ça, quoi.
On va parler de tout ça, on va devoir laisser la place aux informations, Marion. Je vous récupère après. Et on va surtout essayer de mettre les choses sur la table les unes après les autres et de voir quelles pistes on peut trouver pour vous aider à avancer.
Oui, je vous remercie, c'est vraiment ça.
Là, on a l'affaire en vrac, si je puis dire. On va voir.
Oui, voilà, il faudrait ranger dans les tiroirs.
Eh bien, je m'en occupe, j'adore ranger.
J'avais remarqué.
Ah oui?
Oui, j'avais remarqué. Je trouve que des fois, vous arrivez à... Tiens, la jeune femme, là, avec son jeune mari. Ah, mais j'étais époustouflée, je l'avais déjà entendue, cette femme. Et puis, vous avez trouvé, quoi, pourquoi elle restait dépendante comme ça, comme moi, je suis dépendante. Il y a plein de vos phrases... L'autre jour, c'était...
Marion, il faut qu'on arrête.
Oui, oui, les informations, c'est là.
Je vais me faire gronder. Merci beaucoup, ne bougez pas. On se parle tout de suite, dans un instant.
Europe 1, 23h, 1h, la libre antenne. Sabine Marin.
Sur Europe 1 pour la deuxième et dernière partie de cette libre antenne. Il nous reste une toute petite heure à passer ensemble, un peu plus de trois quarts d'heure. Vous pouvez bien sûr continuer à nous appeler au 3921 si vous avez envie de prendre la parole ce soir. Estelle est là au standard, prête à vous recevoir. Si vous souhaitez intervenir, donner votre avis par SMS, apporter un soutien ou même demander à être mis en contact avec quelqu'un qui vous a particulièrement touché, vous faites le 73921 en commençant bien par le mot nuit, avec nuit en majuscule, hein, toujours. Et puis je vous rappelle notre adresse mail, libreantenne en un seul mot, libreantenne@europe1.fr. Je récapitule, 3921 par téléphone, 73921 puis le mot nuit pour les SMS et libreantenne@europe1.fr pour vos mails.
23h, 1h, la libre antenne d'Europe 1, Sabine Marin.
Marion, êtes-vous là ?
Oui, bien sûr, oui, je suis là, oui.
Merci de votre patience.
Non. Normal, hein, il faut bien que les informations soient données.
Alors, je vous ai écouté beaucoup là, dans cette première partie pour vous comprendre et commencer à suivre votre parcours, à mettre une grille de lecture un petit peu sur certaines choses. Si je comprends bien aujourd'hui, il y a trois domaines. Si on séparait les choses un petit peu, il y a trois domaines importants. Évidemment, un, la santé. Et on va en parler. En deux, les histoires de maison, parce que la maison, c'est extrêmement important. Ça, symboliquement, la maison, c'est nous. Et donc, c'est vrai que quand il y a quelque chose qui ne va pas, en l'occurrence, quand on doit la quitter pour des travaux, quand il y a un chantier, quand il y a des fuites, ça dit beaucoup de choses aussi. Et ça, ça joue sur notre morale énormément.
Oui, ça m'intéresse beaucoup ce que vous dites là.
Et la troisième chose, c'est vos amours, si on peut généraliser en appelant ça comme ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces trois thèmes-là?
Oui, bien sûr. Je vous appelle pour avoir des conseils, donc évidemment que je suis d'accord.
Parce que je pense qu'à un moment donné, c'est ce que je dis souvent dans la vie, il y a un temps pour tout, c'est-à-dire il y a un temps pour se prendre des épreuves dans la figure. Et d'ailleurs, petite parenthèse, j'ai tendance à penser que la vie nous met face à des épreuves parce qu'on est capable de les surmonter. Et vous êtes une sacrée bonne femme, hein, quand même. Une sacrée bonne femme d'avoir surmonté tout ça.
Je sais que dans ma famille, je suis considérée comme... Ma mère disait, toi, t'es pas pareil.
Oui.
Et je considérais un peu comme une battante, oui.
Un warrior, oui, c'est ça, c'est ce que je me disais. Donc si aujourd'hui, moi, la première chose que je ferais, c'est de prendre un papier, un crayon, d'écrire les choses en faisant un état des lieux. C'est-à-dire, sur ces trois thèmes-là, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Voilà, thème de la santé, thème de la maison et thème de vos amours ou de cette relation compliquée. Et ensuite, en quelques lignes simplement, c'est important de voir les choses par écrit. Et ensuite, pour chaque thème, de faire l'inverse, c'est-à-dire d'écrire ce que vous voudriez. Quelle serait pour vous la situation idéale? Et à partir de là, chaque jour, commencez à diriger vos pensées vers ce que vous voulez.
Oui.
C'est vraiment se poser. Alors, on va commencer un petit peu ensemble, si vous le voulez bien, la santé. Aujourd'hui, concrètement, quelles sont les maladies qui sont encore... qui vous enquiquine vraiment au quotidien?
Eh bien, je dirais les douleurs chroniques.
Les douleurs. Et ça, vous m'avez dit que vous avez commencé à être prise en charge par un service de spécialisé sur la douleur.
Oui. Donc, il fait des essais. Figurez-vous que j'arrive jamais à retenir. Un neurostimulateur transcutané.
Oui.
Il essaie aussi la gémothérapie.
J'ai pas compris.
De la gémothérapie.
Qu'est-ce que c'est? La gémothérapie.
Oui, voilà. Oui.
Allez, avec les plantes, là, les petits
bourgeons.
Les bourgeons, oui. Voilà, je cherchais le mot. Oui, d'accord, pardon, j'avais pas compris. Gémothérapie.
Voilà, il m'aurait proposé aussi la magnétothérapie, mais l'infirmière spécialisée du service est complètement mobilisée pour le Covid, donc.
D'accord.
Ça, c'est très, très ennuyeux aussi, quoi, par rapport. Les chroniques, on n'a plus tellement accès au service, même si là, ce coup-là, il y a des efforts de fait. Mais j'ai eu un problème dentaire pendant le confinement, quoi, qui est consécutif à ça. Enfin, c'était horrible. J'ai perdu une dent à cause de ça, quoi.
Ouais. Ça fait beaucoup, mais pour avancer. Ça serait bien de prendre les choses une par une. Donc, petit 1, vous me dites la douleur.
Les douleurs chroniques.
La douleur
oui.
chronique, c'est vraiment ce qui vous enquiquine le plus.
Oui.
Et en deuxième, ce serait quoi dans tout ça?
Eh bien...
Les effets secondaires, peut-être aussi, du traitement contre la leucémie? Ou c'est quelque chose que vous avez intégré maintenant?
Non, ça va. Non, ça va.
Ça va, d'accord.
Oui. Je suis adhérente à l'association... de la leucémie lymphoïde chronique. J'ai beaucoup d'informations par ce biais-là. Je sais à quoi m'en tenir et sans, bon, c'est une maladie, je l'aurai toujours.
J'ai bien compris que c'était quelque chose qui est latent, qui se tait, mais qui n'est pas complètement, qui n'a pas disparu, quoi.
Voilà. Elle est contenue. Pour la contenir, on paye un manque d'immunité. Elle peut se redéclarer fortement dans un an, dans 10 ans ou jamais.
D'accord. Donc pour l'instant, pour vous, ce qui est important, c'est vraiment ces douleurs.
C'est vraiment ces douleurs parce que ça m'empêche d'avoir une certaine indépendance dans mes, dans mes mouvements, dans la force de ce que je pourrais faire.
D'accord. Donc la première étape, vraiment, pour moi, c'est d'écrire et d'accepter. En disant, voilà, je me le dis à moi-même, je sais que j'ai des douleurs. Elles sont pénibles. Je les accepte parce que je n'ai pas le choix. Mais je vais travailler à soulager ça. Et donc, j'aimerais que chaque jour, vous vous concentriez en vous disant « Je m'autorise à me libérer de toutes ces douleurs. Je m'autorise à me faire du bien aussi, des choses comme ça. » Alors, il y a le traitement que vous allez... Les traitements qu'on va vous proposer dans ce centre antidouleur, jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose ou un assortiment de choses qui pourraient vous soulager, c'est déjà important. Mais vous aussi, vous pouvez vous engager à vous faire du bien, à changer votre alimentation, à faire très attention à votre corps, respirer.
J'ai un truc qui me fait du bien.
Oui.
Donc, je suis dans une région très, très boisée. Donc, j'ai deux chiens bergers belges qui demandent beaucoup d'exercice. Mmh. Et d'ailleurs, à l'origine, c'est pour ça que j'ai ces chiens-là. Parce que, voilà, j'aime partir en forêt avec des chiens gais et joyeux. Et donc là, j'ai repris la marche en forêt. C'est vraiment très particulier parce que je marche, j'ai mal aux genoux, j'ai mal partout, voilà. Et j'ai des arbres. Et j'ai des arbres copains. C'est que je vais voir régulièrement des hêtres. Et je reste près de ces arbres, je les serre.
Je reste un moment assise. Vous nourrissez leur énergie.
Oui, et quand je reviens, j'ai moins mal. Oui. Mais ça ne dure pas, évidemment.
Non, mais ça fait partie des choses. Et souvent les gens rigolent quand on conseille ça, mais ce n'est pas rigolo du tout. C'est extrêmement important d'aller s'oxygéner, de marcher quand on a la chance d'avoir, comme vous, en plus, de la nature à portée de main.
Oui, ça, c'est une chance.
Marcher, ne serait-ce qu'un tout petit peu chaque jour, c'est vraiment une manière de faire du bien à son corps, et vous le sentez déjà vous-même. Donc, plein de petites choses comme ça. Est-ce que vous pratiquez un peu la méditation ?
J'y suis jamais arrivée parce que justement parce que je vous ai pas dit j'ai le syndrome des jambes sans repos et en général ça va avec les fibromyalgies ça la première gêne physique que j'ai eue dans ma vie dès l'âge de 22-23 ans.
Mais en quoi ça vous empêche de méditer ?
Eh bien c'est que je suis tout le temps en train de bouger parce que à l'arrêt j'ai ce syndrome qui se développe.
Qui se manifeste.
Oui et qui voilà. Je trouve plus mes mots.
Eh bien, vous pourriez développer une sorte de méditation en marchant, tout doucement. Vous savez, la méditation est une façon de calmer son mental. Donc, si le corps n'accepte pas le repos complet, eh bien, apprenez à méditer en marchant, tout doucement.
Oui.
Quitte à mettre des audios, vous savez, il y a beaucoup d'audios qui sont excellents de méditation accompagnée.
Oui, d'ailleurs, ce médecin me l'avait suggéré parce que je lui ai parlé de ces marches en forêt. Et j'ai l'impression que mettre un audio, j'ai quand même besoin d'entendre la nature.
Alors, trouvez un moyen de mettre un audio à un autre moment.
Oui, voilà, mais pas dans ce moment où j'écoute les oiseaux,
au moment où vous voulez, Marion. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est toutes les chances de votre côté pour tester tout ce qui peut vous faire du bien.
Oui, je pourrais faire ça, effectivement, en fait, chez moi... quand je sens que je commence à déraper, quoi.
Exactement, c'est une manière de se remettre dans l'axe, vous voyez. Souffler un peu, laisser le mental se calmer et se concentrer sur le corps et sur tout ce qui peut lui faire du bien. Les automassages aussi, vous massez vous-même les pieds, vous massez le centre des mains. Il y a beaucoup de terminaisons nerveuses dans les mains.
Oui, j'ai même été voir une réflexologue plantaire.
En tout cas, l'idée, ça ne va pas être de lister ce soir tout ce que vous pourriez faire, ça simplement vous dire que chaque jour... Oui. Dirigez toutes vos pensées vers ce qui peut vous faire du bien.
Oui.
Ça, c'est déjà une chose importante. Petit 2, la maison.
Oui.
Concrètement, financièrement, ça va, vous tenez le coup. Et matériellement, j'ai entendu quand même qu'il y a des voisins qui vous aident et qu'une entreprise est déjà mandatée pour faire les travaux.
Oui. Il y a une entreprise qui est mandatée, dont les devis ont été acceptés. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas qu'une, il y en a trois. Et il y a encore un souci qu'on veut me mettre. Moi, je veux pas payer pour des conséquences de travaux que j'ai fait faire, quoi. Il y a encore un souci par rapport à ça avec la partie adverse. Bon, ce thème-là que mon voisin va m'aider.
Voilà, je pense que là aussi, à un moment donné, il va falloir être pragmatique, aller à l'essentiel, choisir ce qu'il faut pour que ça se répare, tout ça, et l'accepter. C'est aussi se dire, voilà, je sais que c'est une période pas facile. Quand on a des travaux dans une maison, ça secoue. Ça secoue sa structure à soi aussi, émotionnellement, mais c'est un mal pour un bien. Je me reconstruis là aussi, en changeant ma maison et en réparant ma maison, je me reconstruis moi aussi.
À ce propos-là, je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait que je serre mes affaires. Et finalement, je suis seule dans cette très grande maison avec beaucoup de par exemple, beaucoup de vaisselle. Parce que moi, j'aime cuisiner, pas en ce moment, mais sinon, j'aime cuisiner et pâtisser. Et donc, je pensais donner tout ça une partie à une association que je connais pour me délester un peu de...
Excellente idée. Hein, j'allais vous dire justement, faites une liste aussi des choses qui sont vraiment importantes pour vous. Et tout le reste, ce qui ne l'est pas, c'est une manière aussi de s'alléger. S'alléger moralement, mentalement, de se libérer des choses matérielles dont on n'a plus aucun... qui n'ont plus aucun intérêt. Hein.
Oui, donc... j'ai contacté déjà...
Marion, il va falloir qu'on accélère un petit peu parce qu'il y a des gens qui attendent derrière vous.
Oui, je vous en prie.
La troisième chose, faites la même chose avec votre relation soi-disant amoureuse. Faites le ménage.
Mais alors c'est... j'ai pas... Vous voyez, je vous ai dit, j'ai fait ça, mais là, je sais pas quoi faire. Comment ça, faire le ménage?
Couper les ponts avec lui. Libérez-vous d'un personnage qui ne vous apporte rien.
Le problème, c'est que je suis en, alors je ne suis pas en difficulté financière, mais pour certaines choses matérielles, là oui, parce que je peux pas le faire moi seule.
Eh ben, vous demandez une assistante sociale, vous demandez à des voisins, à des amis, mais pas à quelqu'un comme ça qui est toxique d'après ce que vous me dites. Faites la liste de tout ce qui vous convient pas.
Et le problème, c'est que l'environnement, d'abord des amis, j'en ai plus. Je suis désocialisée depuis que j'ai eu cette maladie. Et puis, je suis dans ce village, on est 180 habitants. Ce sont des personnes âgées, malades, des femmes seules.
Vous avez droit à des aides à domicile, vous le savez, ça?
Oui, je le sais. J'en ai eu et puis finalement, si vous saviez, j'ai eu des problèmes avec une un jour de chimio que je venais de rentrer. Enfin bon, je vais pas vous raconter ça, mais ça m'a un peu dégoûtée. Hein.
C'est pas parce que ça s'est mal passé une fois que ça se passera mal une autre fois. Je pense que vraiment, il faut arriver à structurer tout ça dans votre esprit, dans votre vie. Régler les problèmes un par un et vous concentrer ensuite uniquement, quand vous serez réinstallé dans votre maison, sur votre bien-être et votre santé.
Oui.
Et dirigez toutes vos pensées vers des choses positives.
Oui, je vais...
D'accord, Marion ?
Oui, oui.
Je vais devoir vous laisser parce qu'on a du monde derrière.
Oui, bien sûr.
Ça fait un petit moment déjà. Hein.
Voilà, bon, que la personne qui me suit... excusez-moi, madame, monsieur.
tout va bien. Mais simplement, oui. Je pense qu'il est temps vraiment pour vous de avec cette énergie que vous avez, de donner un grand coup de talon dans le fond et d'aller vers des choses positives. Uniquement vers ce que vous voulez et ce qui vous fera du bien, dans tous les domaines.
Je vais tenter. Je vous remercie, Sabine, de m'avoir écoutée. Et je vais faire cette liste, comme ça, là, point par point.
Je vous embrasse, Marion.
Merci, moi aussi. Au revoir.
Et nous allons faire maintenant la connaissance de Valérie. Bonsoir, Valérie.
Bonsoir.
Soyez la bienvenue.
Merci.
Je ne sais pas par où commencer.
Bon, on va dire par le début. Qu'est-ce qui vous arrive? Mettez tout sur la table, on va faire le tri.
Alors, on va dire depuis... je me suis fait opérer, on va dire, de mon épaule en début décembre. Moi, ça a été assez douloureux, on va dire.
C'était quoi comme souci?
Les tendons et calcifications. Ensuite, le mois d'après, c'était ma mère qui a été hospitalisée. On va dire, c'était vraiment très, très grave. Une grosse intoxication alimentaire, on a failli la perdre. Le mois d'après, c'était mon père. Tout ça, ça a été très dur à supporter. Ma mère on nous avait dit que c'était vraiment... On m'avait prévenu qu'elle passait sûrement pas la nuit, donc c'était vraiment très, très, très dur
à vivre, oui, pour vous.
Oui, parce que je suis très proche de ma mère. Et
j'imagine que chaque heure qui passait était lourde. Hein.
C'était très lourd.
Oui.
Et mon compagnon, à l'époque, ne comprenait pas du tout la situation. Il me soutenait déjà pas, moi. Enfin, on vivait chacun de son côté. Hein. Il a sa maison, moi ma maison. Et déjà, moi, quand j'étais à l'hôpital, j'avais demandé de venir 15 jours pour m'aider parce que je pouvais pas bouger mon bras. Pas voulu. Donc, je me suis retrouvée toute seule.
Comment ça, il a pas voulu? Mais comment est-ce qu'on peut refuser à sa compagne de l'aide dans un moment pareil?
Parce que monsieur travaillait, parce que un peu égoïste.
Il travaille, mais vous n'êtes pas en train de jouer non plus. Enfin, c'est...
Comment?
Vous n'étiez pas en train de vous amuser non plus pendant ce temps-là, vous?
Non.
Et oui, donc lui travaille.
Moi, je m'en serais bien passée.
Ouais, j'imagine bien.
Et je me suis retrouvée toute seule. Et puis, donc ma maman parle dessus tout ça. Ensuite, il a fallu aller la voir à l'hôpital, tout ça. Donc je me suis fait emmener parce que je pouvais pas conduire. Et elle a quand même remonté la pente tout doucement, au bout de 3 mois. Elle s'est battue, elle a réussi à remonter.
Non.
C'est déjà ça. Bon, elle est quand même plus faible qu'elle n'était. Mais bon.
Elle est sortie d'affaire, là?
Oui.
Bon.
Mais elle a toujours le germe en elle. Il faut toujours qu'elle fasse attention. Donc après, c'était mon papa qui a eu une grosse insuffisance respiratoire, parce qu'il a des soucis aussi. Donc il a été à l'hôpital. 15 jours, ils l'ont bien soigné, il est revenu. Moi, entre-temps, vu que ça n'allait déjà pas avec mon compagnon, ça faisait 9 ans qu'on était ensemble, mais ça faisait déjà 3 ans que je me posais la question si ça allait durer, parce que je voyais qu'on se voyait de moins en moins, qu'il faisait plus attention à lui qu'à moi, il voulait jamais venir chez moi, il venait que pour manger ou jamais pour coucher. Enfin, j'avais vraiment l'impression qu'il profitait de moi. Et jusqu'au jour où avec une opération comme ça, on s'en remet pas. Et puis moi, je me voyais m'enfoncer parce que ça a été très dur, les moments-là. Je me voyais tomber dans une dépression.
Pourquoi vous me dites avec une opération comme ça, on ne s'en remet pas? Une fois que l'opération de l'épaule est faite, pourquoi est-ce que...
Oui,
pas...
mais parce que je me... Pardon.
Prenez le temps, hein, Valérie. S'il y a besoin, on fait une pause, vous me le dites. Respirez.
Je voyais que j'avais du mal à récupérer mon bras et je me suis dit, je ne reprendrai jamais mon travail.
Ah, vous avez eu peur?
Oui, j'ai vraiment eu très peur.
Oui, je comprends.
Et voilà, et lui, il ne voyait pas que je tombais dans une dépression. Et le médecin, il l'a vu tout de suite. Lui. Je suis à peine rentrée dans le cabinet, il m'a dit, mais vous n'allez pas bien, sinon ça ne va pas. Donc, je lui ai tout expliqué. Et puis, il me dit, mais partez avec votre compagnon. Je lui ai dit, mais non, il ne veut rien faire avec moi, rien. En vacances avec ses enfants, mais moi, c'est non.
Vous avez des enfants avec un autre homme, j'imagine, s'il y en a?
Moi, oui, je suis divorcée depuis 15 ans. Mon ex-mari était alcoolique et violent. Et mes deux enfants, je les ai eus avec lui. Et heureusement qu'ils sont là, d'ailleurs, parce que...
C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce qu'il y a une relation, une belle relation entre vous?
Oui, on est très fusionnels, tous les trois.
Ah, ça, c'est formidable.
Oui. Mon gamin avait 2 ans et demi quand je suis partie. Parce que ma fille m'a dit que moi, quand je travaillais, il était violent avec mon fils. Donc, arrive un moment, ma fille, elle me dit « Maman, quand est-ce qu'on s'en va ?» Parce que c'est plus faisable. Puis je me rendais compte qu'elle qu'elle dormait pas la nuit parce qu'elle avait peur qu'il me frappe. Enfin, voilà.
Et vous avez eu le courage de les prendre sous le bras et de partir?
J'ai eu du mal, mais oui. J'ai pris le courage le jour où il a cassé la voiture, quoi. J'ai appelé ses parents, puis je leur ai dit « j'en ai marre ». Et puis ils m'ont dit « réfléchis bien, si tu t'en vas, tu reviens plus, quoi ».
Ils avaient quel âge, les petits, à ce moment-là?
Ma fille, elle avait 7 ans et demi, et mon gamin... attendez, ils ont 4 ans d'écart, donc oui, c'est, on va dire 7 ans, et puis presque 3 ans.
Et vous êtes allée où, alors, cette nuit-là?
Chez mes parents. Chez mes parents, et puis le lendemain, il a voulu faire sauter la maison. C'était du chantage. Et de là, il a été à Ravenel, et on l'a fait interner, parce qu'il était vraiment complètement sous, perdu. Enfin, c'était des menaces, et puis moi, si je rentrais dans les maisons, je voyais bien que... Je pense pas que j'en serais sortie parce qu'il devenait de plus en plus violent.
Donc vous étiez vraiment en danger, là?
Oui.
Bon, ça, c'est fini. Vous n'avez plus eu de problème depuis?
Oh, il a toujours été méchant. Hein. Si, parce qu'il a eu des retraits de permis. Enfin, quand on a eu, quand on a eu l'appartement, il tournait autour de l'appartement quand il a récupéré son permis. Et menaçait de nous culbuter, enfin de nous renverser avec la voiture. Il nous appelait dans la nuit. C'était invivable.
Vous avez porté plainte?
Non, même pas. J'ai pris le téléphone, j'ai dit à sa mère, s'il n'arrête pas, soit je porte plainte ou... Mais non, j'ai juste été à la gendarmerie quand je suis partie pour dire que je quittais mon domicile conjugal parce qu'il était violent.
Qu'est-ce qui vous a retenu de porter plainte?
La peur.
Parce qu'il aurait pu avoir une injonction de ne pas vous approcher, vous et les enfants.
Je n'ai même pas pensé à ça.
Mais aujourd'hui, il vous cause encore des soucis?
Non.
Non,
non,
c'est fini maintenant.
Non, c'est fini. Bon.
Ok, donc ça, on range dans le passé.
Oui.
Bon.
Donc, la personne que j'avais retrouvée, je pensais que ça marcherait. Ça n'a pas marché. Jusqu'au jour, c'est pareil, j'ai pris la décision de casser parce que je ne voulais pas subvenir à ses besoins. Il a été odieux. Et je me suis revue les années que j'ai passées avec mon ex-mari et j'ai dit non, je ne recommencerai pas. Oui. J'ai dit non, tu t'en vas. Et lui, il n'a vraiment pas compris que je réagisse comme ça. Pourtant, il savait. Hein. Il savait très bien ce que j'ai vécu.
Ou il n'a pas compris ou peut-être ça ne l'arrangeait pas de comprendre, hein, surtout.
Oui, je pense.
Je pense que c'est assez facilement compréhensible quand même.
Donc, pour lui, je voulais pas parce que j'avais quelqu'un.
Ah oui, bah oui. Plutôt que de se remettre en question, c'est sûr, c'est plus facile.
Voilà. Ce que je lui ai dit, mais t'es jamais là. J'ai dit, je te dis que je suis pas bien, que j'avais un voile devant les yeux. Enfin, j'étais vraiment pas bien, puis j'avais pas la tête à ça. Et puis, il y a des moments où on veut, et puis il y a des moments où on veut pas. Et c'était pas le moment, donc voilà. Je lui ai dit, dans une vie de couple, il y a plus d'une fois où la femme dit non. Mmh. Et puis, c'est pas parce qu'elle a quelqu'un d'autre. Il y a des fois, c'est l'homme qui dit non parce qu'il n'a pas envie. Et voilà, et on va pas... C'est pas parce qu'on dit non qu'on va voir ailleurs. Donc, il a été très menaçant. Et donc, j'ai pas donné de nouvelles pendant 10 jours. Et quand il a rappelé, il a été odieux. Il me dit, oui, je voudrais bien savoir où on en est, entre guillemets. J'ai dit, mais moi, c'est clair. Maintenant, moi, c'est fini. C'est fini, je ne veux plus... Je ne veux plus... continuer comme ça. J'ai dit, tu fais ta vie, tu vis en égoïste, tu viens que quand... t'as envie, entre guillemets, ou manger, ou... Enfin, voilà, c'est...
Profiter, quoi.
Voilà, profiter. Ouais. Pour moi, c'était ça.
Mais est-ce que c'était clair dans votre esprit? Est-ce que c'était vraiment définitif, cette rupture?
Oui.
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 Vous n'étiez pas en train d'essayer de lui mettre ça sous le nez pour qu'il revienne?
Non, parce que ça faisait des mois, même presque, oui, on va dire. À chaque fois, je lui disais, tu sais, l'amour, ça s'entretient, c'est pas... C'est un petit geste, un petit mot, une attention. Je dis, ça coûte pas cher d'entretenir.
Et qu'est-ce qu'il a répondu à ça?
Il comprenait pas. C'est seulement maintenant. Il me dit, oui, je comprends maintenant ce que tu voulais dire. Et en plus, c'était un homme divorcé. Sa première femme, elle est partie à cause de ça, parce qu'il se comportait en tant qu'égoïste.
Et ça, c'était il y a combien de temps, cette explication-là?
C'était début d'année. Que je l'ai quitté, c'est début d'année.
Oui.
Mais quand je lui disais qu'il fallait faire attention, tout ça, ça fait bien 2-3 ans. Parce que ça fait 3 ans que je me posais la question si j'allais continuer ou pas.
Ah oui, ça vous avait réfléchi longtemps alors. Effectivement,
oui.
J'imagine que quand vous l'avez dit, c'était mûrement pesé.
Oui,
oui. Et donc depuis, comment ça se passe pour vous?
Depuis, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que entre-temps, j'ai rencontré quelqu'un. Je ne sais pas si c'était le bon moment ou pas. Bon, ça s'est fait... on va dire que c'est une personne que je connais depuis... on va dire... ça fait bientôt un an. Mais en toute amitié. Mmh. Et entre-temps... il m'a soutenue pendant mon opération en tant qu'ami. Et puis, lui, ça n'allait pas non plus dans son couple. Donc, on s'est confié l'un et l'autre.
Et une chose en entraînant une autre.
Voilà.
tant mieux, si ça peut vous faire du bien, c'est une bonne chose.
Oui, mais sauf qu'entre-temps, moi, je me suis beaucoup accrochée. Lui aussi, mais le problème c'est que il n'est pas marié, mais il est en concubinage et il a des enfants avec cette femme. Et ça fait 30 ans qu'ils sont ensemble et il y a à peu près une semaine, oui. Tout allait très bien, hein, sauf qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait quelque chose automatiquement. Puis moi, j'aurais bien compris aussi. Il est perdu. Il est perdu. Il sait plus. Il dit qu'il m'aime.
Mm-hmm.
Qu'il n'a jamais ressenti ça. Voilà, c'est vraiment trop, trop beau. Il dit, c'est vraiment un amour interdit. Et que je dis, pourquoi tu veux t'interdire quelque chose qui est vrai, pur, enfin, voilà, quelque chose qu'on veut tous les deux. Et puis, le souci, c'est qu'elle elle le menace, entre guillemets. Après, je comprends très bien, mais c'est dur à encaisser. Elle menace de plus voir les enfants.
Mais ils ont quel âge, les enfants, si ça fait 30 ans qu'ils sont ensemble?
Ça fait 30 ans qu'ils sont ensemble, et la gamine, elle a 15 ans, et le gamin, 13 ans. Oui, encore un peu jeune.
Oui, situation compliquée. C'est-à-dire qu'en tant qu'ami, effectivement, ça n'était pas. Mais vous saviez tout ça dès le départ.
Qu'il était marié. Je savais.
Enfin, qu'il était en couple. Vous le saviez, d'accord.
Je savais, mais après, ça c'est. Des fois, on dit l'amour, ça, on ne calcule pas quand il vient. Et entre guillemets, il me dit, bah, laisse-moi un peu de temps pour. Voilà, je savais que, voilà, pour ses enfants, il ne voulait pas partir tout de suite, entre guillemets.
Parce qu'il est plus amoureux de sa femme du tout, alors, d'après vous ?
Je ne sais pas. Je pense qu'il est quand même encore attaché. Parce que j'ai posé la question et il me dit, ben, j'y tiens quand même à quoi ? J'ai dit, je veux que tu sois franc. Je veux pas de mensonge, je veux... Et bah moi, ça me rend malade, entre guillemets, je suis pas bien. Et la semaine dernière, il dit, je t'aime plus que tout, qui dit, je peux pas continuer comme ça.
C'est lui qui vous dit ça ?
Oui.
Ouais. Oui, c'est, j'imagine qu'il est, il est déchiré entre vous deux, quoi.
J'y arrive pas, je peux pas.
Alors, il y a... Respirez, Valérie. Prenez une bonne respiration. Il y a plusieurs choses là-dedans, dans votre histoire. Il y a plusieurs histoires dans l'histoire. Et je pense que cette situation est vécue extrêmement douloureusement parce qu'il y a tout le reste qui vous a énormément fragilisé. Il y a ce qui s'est passé avec votre maman. D'abord, ce qui s'est passé avec votre épaule.
Oui.
La douleur, la peur. Tout ça, c'est comme des grosses empreintes qui sont en vous. Ce qui s'est passé avec votre maman, la peur à nouveau. Puis votre papa, la peur à nouveau.
Oui.
Et puis toute cette relation un peu glauque avec cet ex qui finalement ne vous a pas fait preuve de beaucoup de...
Pas de soutien du tout.
Ni de soutien, ni même de tendresse, ni de rien du tout. Donc tout ça, c'est ce que j'appelle les couches du millefeuille.
Oui.
C'est ça, plus ça, plus ça, plus ça. Et ça commence à faire lourd sur vos épaules.
Oui.
Et je pense que c'est là qu'il faudrait séparer les choses. Et ça fait longtemps que je n'en ai pas reparlé, mais vous savez que je conseille souvent aux gens dans des situations comme ça d'aller faire de l'EMDR.
C'est quoi ça ?
C'est la thérapie par les mouvements oculaires. C'est une thérapie de désensibilisation émotionnelle qui fonctionne très très bien parce que je pense que vous êtes complètement à vif sur des empilades de choses du passé qui aujourd'hui n'existent plus. L'opération, elle est terminée. Maman va mieux, papa aussi. L'ex, c'est fini. Donc tout ça, ce sont des choses du passé que vous traînez sur vos épaules comme un gros sac à dos et qui vous empêchent d'avancer dans le présent. Donc je pense qu'avant même de gérer cette nouvelle relation et de voir où ça vous amène ou pas, il est vraiment urgent chez vous d'aller faire un grand nettoyage de tout ça. Et l'EMDR est pour moi une des thérapies les plus rapides et les plus efficaces dans cette situation-là.
On fait ça où ? Ça se trouve où ?
Il y a beaucoup de psychothérapeutes qui le pratiquent, il y a des hypnothérapeutes qui le pratiquent aussi. Vous cherchez sur Internet, là, il y a la Fédération française de MDR, EMDR. Et vous trouverez des gens dans votre région. Et vraiment, en quelques séances, ça peut déjà vous permettre de désensibiliser toutes ces émotions-là, de digérer, si vous voulez, ce que vous n'avez pas digéré. Parce que pour l'instant, ça c'est trop. Vous digérez tellement de choses en même temps que vous êtes en train de vous étouffer avec tout ça, quoi. Et oui, c'est ce que j'entends. Mais il va falloir séparer les choses du passé qui n'ont plus lieu de continuer à vous faire du mal aujourd'hui parce que c'est fini.
Et puis le problème, c'est que le passé, il revient tout le temps.
Mais il revient parce qu'il n'est pas digéré. Alors, il y a des choses qui reviennent sur lesquelles, après, vous pourrez travailler plus longuement. Mais là, le traumatisme de votre opération et toute cette peur énorme que vous avez eue, ça se nettoie vraiment avec le MDR. Il n'y a aucune raison que ça reste là. Vous avez traversé quelque chose qui est terminé maintenant. Votre maman, elle va bien. Ça aussi, c'est fini, c'est terminé. Même si, bien sûr, il y a des fragilités. Mais quand même, tout ça, ce sont des choses qui sont passées. Et qui vous épuisent tellement que vous n'arrivez plus à affronter le présent. Donc je pense que prendre d'abord soin de vous, de ce côté-là, pour reprendre des forces, pour apaiser toutes ces émotions qui vous submergent. Ça serait vraiment intéressant. Et ensuite, voir les choses peut-être différemment, avec un peu plus de recul et d'apaisement avec ce monsieur-là, cette relation-là.
Oui, mais le problème, c'est que je crois que... Enfin, voilà, c'est vrai que moi, je suis très... Enfin, je suis attachée. Et lui, je pense qu'il y est peut-être un peu moins, parce que, voilà, il a eu une vie... Enfin, une vie de famille, mais entre guillemets, de 30 ans avec cette personne. Mais... Comment je vais dire ? Je suis perdue, quoi, sans lui. On a tellement de choses en commun. Comme je lui dis, on n'a même pas besoin de se parler. Un regard, on se comprend.
Alors peut-être c'est vraiment ça. Peut-être aussi, vous dites beaucoup, je suis attachée. Attention de ne pas mélanger l'amour et l'attachement. Il est arrivé un peu comme un sauveur au moment où vous étiez dans le fond du trou. Il a été là, il a été le seul qui a été là. Et c'est peut-être aussi comme si vous aviez reporté sur lui tout l'amour que vous aviez à donner à quelqu'un.
Ah ben oui, comme je lui ai dit, moi quand j'aime entière, donc je suis entière, donc après... Ah, il me dit, oh oui, c'est vrai que là-dessus, tu m'as pas menti, ça c'est sûr.
Mais vous étiez tellement en manque.
Enfin, oui.
Et oui, mais peut-être ça peut aussi fausser la relation. Peut-être que ça serait intéressant quand même que vous preniez le temps, une fois que toutes les émotions inutiles, si je puis dire, de continuer à porter sont allégées, que vous preniez le temps d'analyser vraiment ce qui se passe dans cette relation-là. Est-ce que vous êtes vraiment tombée amoureuse, ou est-ce que vous aviez désespérément besoin d'un sauveur, d'un bras, d'une épaule ?
Enfin, je pense que je suis quand même amoureuse. Pour être aussi mal, ne plus pouvoir manger, avoir des idées noires comme j'ai...
Mais en même temps, quand je vous dis de travailler là-dessus, ce serait, pour l'instant, tout se mélange. Il y a tellement d'émotions à l'intérieur, là, que c'est compliqué de faire la part des choses. C'est pour ça que je vous dis qu'il me semblerait intéressant de commencer par aller rapidement apaiser tout ce qui concerne l'avant. L'opération de l'épaule, maman, papa, tout ça. Quand vous serez apaisée, vous serez plus forte pour regarder en face la situation. Parce que là, comme vous le disiez tout à l'heure, vous frôlez un peu la dépression.
Ah bah oui.
Parce qu'il y a trop d'émotions qui s'entrechoquent à l'intérieur. Là, ça se bouscule de partout.
D'ailleurs, le médecin m'avait donné des médicaments, mais je suis tellement shootée avec ça que...
Oui, puis je pense qu'endormir les émotions, c'est pas une bonne idée. Mieux vaut aller les exprimer et les apaiser.
Le problème, c'est que je suis... Au travail, ça me défoule. Je travaille sans m'arrêter, donc c'est un défouloir, entre guillemets.
C'est surtout, à mon avis, de manière d'oublier.
Oui.
Et oui.
Mais le problème, c'est qu'on travaille ensemble.
Ah.
On me montre. Oui.
Et oui, si vous ne dites pas tout... D'ailleurs, j'entends que même votre chat n'est pas d'accord. Hein ?
Oui, il est sûr. Oui, oui. Oui, donc, on travaille au même endroit, donc c'est pas évident.
Est-ce qu'il y a une relation de hiérarchie avec vous, entre vous ?
En plus.
Oui, c'est marrant, je le sentais venir. Vous aimez bien les trucs compliqués, hein, Valérie ?
Bah, pas vraiment, pourtant.
Oui, bon.
Voilà, après, je sais pas.
Qu'est-ce qu'il vous dit, lui, concrètement ?
Pour lui, il me dit qu'il est complètement perdu.
Ça, c'est pas très concret.
Qu'il a pas le courage de faire le pas pour l'instant.
Donc au moins, il a la franchise de vous dire ça. Il vous fait pas espérer. Bon. Tout est dans le pour l'instant, quoi.
Alors là, il est parti en ce moment, il dit je vais faire le point, il est en congé. Il est parti avec des amis, il a laissé sa femme et ses enfants chez lui. Et il dit je vais essayer de faire le point, parce que c'est invivable à la maison, comme elle se
rend compte qu'il y a quelque chose, puis lui, il ne veut pas lui dire la vérité.
Aussi, ah, voilà, il y a... d'accord. Donc, elle... est-ce qu'elle lui a mis un ultimatum ou est-ce qu'elle...
Non, je ne pense pas qu'elle
ait mis... menace, non ?
Elle a mis des menaces, oui. Elle lui a dit, la maison, c'est la moitié, puis tu donneras la moitié de ta part pour les enfants. Donc, il y aurait pension. Mais vu qu'elle, elle ne travaille pas à 100%, donc lui, il dit toujours... y a la pension pour les enfants, puis sûrement pour elle, parce que voilà, elle n'a pas un gros revenu. Donc je pense qu'il y a ça aussi qui le retient.
Et oui, c'est lourd tout ça, évidemment.
Qui dit je ne veux pas dépendre de quelqu'un, dont moi, pour vivre. Qui dit je ne veux pas dépendre de quelqu'un pour vivre.
Pour l'instant, malheureusement, dans cette histoire-là, il n'y a que le temps qui peut faire avancer les choses. Et c'est pour ça que je pense que vous devriez mettre ce temps à profit pour soigner le reste, apaiser le reste. Pour être plus forte d'un côté, il faut aller réparer ce qui est encore fêlé de l'autre, qui est encore toutes ces blessures qui sont encore béantes.
Et on me conseillait de pas lui donner de nouvelles tout le temps qu'il était parti pour que lui se rende compte que je lui manque, entre guillemets.
Mmh. Qui vous a conseillé ça ?
Une amie.
Ouais. Et vous l'avez fait ?
J'ai tenu 3 jours. Et c'est vrai que dans les 3 jours-là, j'avais plein de messages en me disant c'était des photos des endroits où je trouvais ou qu'est-ce qui t'arrive ?
Oui, puis vous savez ce que j'aurais tendance à vous dire, Valérie, il y a déjà une femme qui lui fait un chantage d'un côté. Ne pas appeler pour faire genre, c'est du chantage aussi, c'est pas terrible.
Voilà.
Vous n'en êtes pas là dans cette relation avec lui.
Non.
Ben non, vous êtes, c'est quand même au-dessus de ça, quoi. Vous pouvez suffisamment vous dire les choses et ouvrir votre cœur en lui disant qu'il vous manque, tout simplement, et pas jouer au côté. Non, je t'appelle pas, comme ça tu verras ce que c'est.
C'est ce que je lui ai dit. Ah. Tu me manquais.
Ah oui. J'ai l'impression, moi, qu'il y a beaucoup d'amour dans tout ça, mais voilà, vous n'êtes pas seule. Il y a quelqu'un aussi qui compte, c'est sa femme depuis 30 ans. Mmh. Après, je ne sais pas quel est leur lien, quelle est leur relation, quel est leur avenir ou pas. Les enfants, je pense qu'ils sont quand même adolescents, donc c'est moins compliqué.
La gamine, elle s'en est rendue compte parce qu'elle lui a posé la question. Bah oui, et il lui a dit, c'est les affaires de grands, ça ne te regarde pas.
Mais il a raison, oui.
Elle lui a dit, la gamine, elle lui a dit, je vois bien que tu n'es plus pareil avec maman.
Et ça aussi, mais une fois de plus, ça ne vous appartient pas. C'est leur histoire de famille à eux.
C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, si tu veux avancer, sois honnête.
Exactement.
Avec eux comme avec elle.
Avec lui-même pour commencer.
Voilà, je lui ai dit, tu verras, t'avanceras mieux. D'ailleurs, je lui ai fait une lettre pour qu'il la lise pendant ses vacances.
En tout cas, dites-vous toujours qu'il y en a une qui le menace d'un côté, qui doit être extrêmement difficile. Et que je pense que plus vous serez sincère et dans une relation qui lui fait du bien, mieux ce sera. Quoi.
Parce que là, c'est vrai qu'elle lui fait la misère, entre guillemets.
J'imagine bien, oui. Donc si vous le pouvez, essayez d'être souple et de lâcher du lest, laisser du temps et le laisser... lui laisser le temps de comprendre où il en est, d'être sincère avec lui-même et avec vous. Valérie, notre émission se termine. J'ai pas vu le temps passer en discutant avec vous. Vous êtes très touchante. On a reçu quelques SMS de gens qui vous embrassent et qui souhaiteraient être en relation avec vous. Peut-être pour vous apporter un peu de soutien. Donc, si vous permettez, on vous transmettra leur numéro de téléphone. Vous n'allez pas raccrocher. Mais s'il vous plaît, pensez à ce que je vous ai dit. Pensez d'un côté à aller soigner ces blessures-là.
Peut-être. Alors, il faut que j'aille où, vous m'avez dit ?
EMDR. Tapez EMDR sur Internet, vous trouverez, je ne sais plus quel est le nom, le groupement ou l'association. Association française d'EMDR, voilà. EMDR, les initiales.
D'accord.
Et ça vous fera du bien.
Je vous remercie.
Je vous embrasse, Valérie. Et donnez-moi de vos nouvelles, s'il vous plaît, dans quelques temps.
Oui, d'accord.
D'accord ? Je vous embrasse. Merci. Au revoir. L'émission est déjà terminée. Demain soir, c'est Olivier Delacroix que vous retrouverez avec plaisir à partir de 22h30. Quant à moi, je vous donne rendez-vous vendredi prochain. Et d'ici là, je vous quitte avec la phrase du jour. Pardonne, mais n'oublie pas. Pardonner change les perspectives. Oublier nous fait perdre la leçon. Passez une bonne nuit, une belle semaine et je vous dis à vendredi. 1h du matin sur Europe 1, c'est le début des programmes de la nuit.